morning edition from NPR News.
That's it, he's on in the house.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, l'avenir du Donbass est donc en discussion à Paris. L'avenir et pas la paix au Donbass, ce serait peut-être un peu présomptueux d'aller aussi vite. En tout cas, c'est aussi la première fois que le président ukrainien rencontre le président Poutine. Et on y vient dans moins d'une minute. Le bruit du monde est dans le Grand Nord, dans l'Arctique, terriblement menacé par le réchauffement climatique. Nous irons, figurez-vous, à la chasse aux rennes. Le bruit du monde, la suite. Et Estelle Schmitt avec les chutes Victoria, victime de sécheresse. Et une première ministre finlandaise qui a 34 ans. Pas de monde selon Trump ce soir, qui ne paie rien pour attendre. Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four qui a regardé comment on observe nos mouvements sociaux dans le monde. Le monde, justement, est vaste. Et on a quand même une petite heure. Bonsoir.
Fabrice Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Alexandra Goujon.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Vous êtes aussi prof à Sciences Po, spécialiste des pays de l'Europe de l'Est. Je le disais, les présidents donc ukrainiens, russes, français et la chancelière allemande sont à Paris pour relancer les pourparlers de paix dans le Donbass, on va dire ça comme ça. Cette guerre qui est à nos portes, on dit souvent guerre à bas bruit parce qu'on en entend guère parler. Mais enfin, il y a quand même eu 13 000 morts, ce qui est beaucoup. À bas bruit, mais donc qui court toujours. Théoriquement, Alexandra Goujon, dans les accords de Minsk en 2015, on était en situation de cesser le feu. Est-ce qu'on peut d'abord juste faire un point? Est-ce que, oui ou non, on tire toujours dans ces régions-là, dans la région du Donbass? Est-ce qu'on meurt toujours dans cette guerre-là et à quelle fréquence?
En fait, le cessez-le-feu n'a jamais été totalement respecté. Il y a eu quelques trêves, mais effectivement, il y a des bombardements tous les jours, autour notamment donc de ce qu'on appelle la ligne de contact, qui sépare les territoires séparatistes des territoires donc administrés par l'Ukraine. Et on va dire c'est variable, mais en tous les cas il y a quasiment des morts toutes les semaines.
Alors pour rappel aussi, vous parlez de ces territoires séparatistes, deux républiques populaires au fond qui se sont créées, la République de Donetsk et celle de Lugansk, république autonome, autoproclamée, avec des présidents l'une comme l'autre. Ça ressemble à quoi à l'intérieur de ces deux républiques-là? Est-ce qu'on le sait au moins ou pas?
Alors, on a assez peu d'informations. On le sait à travers plutôt les organes de presse officiels. Tout est quand même largement cadenassé. Ça fait très longtemps qu'un certain nombre de journalistes basés à Kiev, journalistes français notamment, ne peuvent plus s'y rendre parce que c'est dangereux pour eux. Ça ressemble quand même à des régimes, j'allais dire, autoritaires, sans véritable pluralisme politique, avec l'usage de la violence et des règlements de compte, par exemple, puisque le responsable de la République populaire de Donetsk
a été assassiné
et a été remplacé en 2018.
Mais est-ce qu'on peut circuler, entrer, sortir ou pas? Comment ça se passe?
Alors, c'est assez compliqué. Il y a donc les fameux checkpoints, des points de passage qui sont assez peu nombreux. Et c'est aussi un des objectifs du président ukrainien qui a notamment, fait réparer un pont. Malheureusement, les voitures ne peuvent pas passer, mais au moins les gens peuvent circuler plus facilement d'un côté et de l'autre de cette ligne de contact. Mais ce n'est pas facile. Les contrôles sont extrêmement serrés et on peut passer plusieurs heures pour passer de l'autre côté.
Avec une monnaie qui est le rouble, donc la monnaie des voisins, enfin c'est compliqué de savoir réellement qui est le voisin de qui désormais, avec une mainmise russe qui se sent au quotidien ou pas? Parce que c'est aussi ça l'un des enjeux de cette réunion à quatre, et il y a une énorme forme d'hypocrisie où on a un Vladimir Poutine qui est là au fond en tant que protagoniste ou pas protagoniste. On a un peu du mal à savoir exactement quel jeu il joue. Est-ce que sa mainmise d'abord sur ces territoires, on la sent réellement au quotidien ou pas?
Alors, il y a la volonté de créer quelque chose de spécifique, mais assez rapidement, les dirigeants locaux qui avaient appelé un rattachement à la Russie ont subi quelques déconvenues, puisque finalement, la Russie ne souhaite pas rattacher ses territoires. Et comme vous le disiez, elle a vraiment, en fait, la Russie a un statut très particulier, parce qu'elle insiste pour parler de guerre interne, de guerre civile. Si on passe à une guerre internationale, ce n'est pas la même chose, mais en même temps, tout le monde sait, à la table des négociations, que ces territoires sont soutenus financièrement, politiquement, économiquement, militairement.
Militairement, surtout, parce que les armes, on les a vues circuler. Là, pour le coup, c'est de notoriété publique.
Ça, il y a des images satellites qui le montrent, même si la Russie nie hein, en bloc ce soutien militaire. Et juste au moment d'ailleurs de l'élection de Zelensky, Vladimir Poutine a émis un décret pour permettre aux citoyens de ces régions d'avoir la citoyenneté russe.
Alors, du coup, qu'est-ce qu'on discute en fait aujourd'hui à partir de maintenant ? Est-ce qu'on discute des fameux points des accords de Minsk qui finalement, comme vous le disiez, notamment le cessez-le-feu et entre autres choses, n'ont jamais vraiment été respectés ? Est-ce qu'on les remet sur la table ? Est-ce qu'on les renégocie ? Est-ce qu'on recommence à zéro ? Au fond, on discute de quoi là en ce moment ?
Alors, je pense qu'en ce moment, on discute de ce qui a déjà été, enfin, du prolongement de ce qui a déjà été réalisé récemment, c'est-à-dire échange de prisonniers. Mm-hmm. Et Zelensky est parti avec ces idées-là. Mm-hmm. Continuer les échanges de prisonniers dans les territoires séparatistes. Il y a encore beaucoup d'Ukrainiens, donc c'est l'idée de les récupérer.
Il y avait eu le prisonnier symbole, pardon de vous interrompre, avec Oleg Sentsov qui a pu sortir de sa prison, échangé contre un Russe d'ailleurs qui avait affaire avec le MH17, c'est ça,
oui.
L'avion qui a été touché.
Oui, enfin, c'est comme si il y a eu 35 personnes quand même de chaque côté. Et là, on a essayé de parler effectivement des plus connus. Et donc, effectivement, ce séparatiste, on va dire, impliqué dans le fait d'avoir abattu
cet avion qui a été touché par une pièce d'artillerie russe.
Tout
donc, plus de prisonniers échangés.
Cesser le feu, éventuellement un désengagement progressif de chaque côté de la ligne de contact. Ce qui a commencé depuis juillet. Il y a 3 points de contact où il y a un désengagement. Désengagement, ça veut dire on est passé de 300 mètres à 3 km, vous voyez. Mais plus on s'éloigne de la ligne de contact, moins, on va dire, il y a de provocations, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des bombardements, notamment à la nuit tombée, hein, qui sont assez fréquents. Et là, visiblement, sur ces points de contact, il y a moins de bombardements, mais il y en a encore autour. Hein, cette ligne de contact, elle fait près de 400 km, donc voilà. Après, il y a d'autres choses à l'agenda. On parle élections, l'Ukraine veut parle frontière, elle veut récupérer sa frontière extérieure.
Alors, deux choses. D'abord, est-ce qu'on est en train de créer cette fameuse zone tampon qu'on était censé créer, même avant Minsk, autant que je sache. Quand on écarte les armées de part et d'autre, c'est ça qu'on est en train de créer.
Oui.
Est-ce que oui ou non, on peut dire aujourd'hui, il commence à exister une zone tampon ou pas ?
Oui, alors elle existe à certains endroits. C'est-à-dire à certains endroits, c'est plus large qu'à d'autres. Le problème qui se pose, c'est les populations qui vivent sur ces territoires. Pour vous donner un exemple, là, il y a eu un désengagement. Certains sont très contents, mais d'autres populations qui se retrouvent plus près de l'armée ukrainienne craignent des tirs et donc d'être en ligne de mire. Donc sur le terrain, on considère que s'il y a un désengagement progressif, ça va entraîner le fait qu'il va y avoir dans cette zone grise, qu'on appelle aussi la zone grise, une population de plus en plus importante et qui craint pour sa sécurité.
Vous parliez aussi d'élections à l'instant. C'est vrai qu'il y a un souhait dans ces républiques autonomes, en Russie en tout cas, qu'il y ait des élections dans ces républiques autonomes, sachant que les Ukrainiens, eux, disent pourquoi pas faire des élections, mais avant, il faut que la frontière revienne à son point de départ, c'est-à-dire que ces zones-là soient bien en territoire ukrainien. Où on en est là-dessus ?
Eh bien, on va peut-être le savoir dans quelques heures. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avancer ? Je ne sais pas si on aura une réponse immédiate. Bien évidemment, là, on est sur des agendas complètement différents. Les Russes disent autonomie d'abord, démilitarisation ensuite. Les Ukrainiens disent démilitarisation. On ne peut pas organiser des élections dans un contexte militarisé comme celui-ci, avec des bombardements. C'est pour ça que je pense qu'on va insister davantage sur le cessez-le-feu. Mais Zelensky a mis la barre très très haut, puisqu'il dit en octobre ou à l'automne 2020, il y a des élections locales en Ukraine, on parle d'élections locales, et pourquoi pas les organiser au même moment dans ces territoires séparatistes. Donc, il pose une perspective très lointaine, mais avec quand même cette histoire de récupérer la frontière, et puis surtout, faire des élections dans le cadre de la loi ukrainienne. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même aussi qu'on discute de quel type d'autonomie on parle, et là, il y a des lignes rouges que certains hommes politiques ont dit Zelensky ne doit pas les franchir. Fédéralisation, finalement, ce serait dans le cadre d'une décentralisation qui, aujourd'hui, est en route en Ukraine et qui concernerait l'ensemble des régions ukrainiennes.
Alors, vous parlez de lignes rouges, effectivement. Est-ce qu'on sait où est celle de Zelensky, notamment, du président ukrainien ? Son point de non-retour, c'est quoi ? Je vous pose la question aussi parce qu'il y a eu 5000 personnes qui ont manifesté là, récemment, pour lui dire ne te couche pas, Zelensky. Attention, donc il y a cette pression aussi de la rue. Sa ligne rouge, elle est où, à lui ?
Alors, lui, il ne parle pas réellement de ligne rouge. Je pense qu'il ne veut pas utiliser ces termes. Il se laisse quand même un certain nombre de marges de manœuvre. D'ailleurs, là, dans une des dernières émissions où il est intervenu, quelques jours avant de venir à Paris, il disait, voilà, je ne peux pas vous parler de tout parce que sinon je perds des billes dans la négociation. Mais à chaque fois qu'on lui a dit, voilà ce que pose comme ligne rouge les opposants. Il a dit, bah oui, bien évidemment, je ne veux pas la fédéralisation, je veux récupérer la frontière. Donc, voilà, après, je pense que c'est pas tout à fait le même vocabulaire qui est utilisé. On a aussi parlé d'un plan B autour du président. Certains ont parlé d'ailleurs éventuellement d'un mur. Il y a des petites rumeurs qui ont circulé. Zelensky n'a pas utilisé encore ces termes, mais il veut aller de l'avant et dit que, en fait, ses propos juste avant de venir à Paris étaient, voilà, je vais rencontrer Vladimir Poutine pour la première fois, je vais voir qui il est en quelque sorte, en chair en os, et je vais voir s'il a envie de faire la paix ou pas. Et après, je verrai comment j'agirai.
Mais est-ce que la crainte des Ukrainiens est justifiée, de ceux en tout cas qui ont manifesté, selon vous? Parce qu'on se souvient à son élection, qui avait été une élection surprise, celle de Volodymyr Zelensky. On va rappeler aux gens qui ne s'en souviennent peut-être pas, le gars est comique, il est acteur de télévision, il incarne un président dans une série télé qu'il devient en réalité, c'était quand même assez baroque. Donc est-ce qu'il... Et il se fait élire notamment sur l'idée qu'il faut commencer à dialoguer un peu différemment avec les Russes. Oui. Donc est-ce qu'il y a vraiment une crainte qui est justifiée côté ukrainien parmi ces 5000 personnes qui ont manifesté, selon vous, ou pas?
Bah, en fait, je crois que la crainte est justifiée, mais elle représente aussi une partie de la population très engagée. Mmh. À la fois, j'allais dire, alors, il y a les opposants, qui occupent cette posture, mais en fait aussi parce que donc ils ont perdu les élections. Il y a aussi les combattants, les vétérans, qui bien évidemment sont attachés, j'allais dire, à leur honneur et qui ont perdu des proches. Mm-hmm. Par contre, effectivement, il a été élu quand même à 73% des voix, et je pense que pour l'instant, il incarne un certain espoir, et c'est pour ça aussi qu'il essaye d'avancer assez vite, parce que je pense qu'il connaît aussi les résultats de l'usure du pouvoir et l'impopularité qui peut aller avec.
Il y a notamment lui donc qui a changé, mais dans ce fameux format Normandie, parce que c'est effectivement une réunion qui a eu lieu près de Ouistreham en Normandie précédemment, il y avait pas Emmanuel Macron, qui depuis non seulement est président, mais a annoncé ces dernières semaines son intention de se rapprocher des Russes. Zelensky, lui, se rapproche des Russes, pendant qu'Angela Merkel, elle, pour le coup, qui était là dans le premier, est très fâchée contre Vladimir Poutine. Mais est-ce que la balance vis-à-vis de Vladimir Poutine a changé depuis le dernier Normandie, si je puis dire?
C'est ça la crainte, en fait, aussi, qui s'exprime à Kiev. C'est-à-dire, c'est Zelensky, qui est déjà pas tellement expérimenté, va se retrouver dans ce contexte où Macron parle de reset, etc. Mm-hmm. Donc, effectivement, la crainte, elle vient de là. C'est-à-dire, on sait où sont les forts, et nous, on est en position de faiblesse. Et si on n'est pas soutenu par nos partenaires européens, qu'est-ce que ça va faire? Alors, justement, là aussi, il y a un vrai test par rapport à ce qu'a dit Macron, parce qu'il y a eu quand même une réaction sur... est-ce qu'on peut faire confiance quand on dialogue avec Poutine? Je pense qu'en fait, il me semble qu'Emmanuel Macron a saisi un petit peu l'opportunité de l'élection de Zelensky, que pour mettre en place ce sommet de Normandie qui n'a pas eu lieu depuis 3 ans, quand même, le faire à Paris, dans un contexte aussi où il se présente comme celui qui voudrait instaurer une défense européenne. Donc il joue aussi cette carte-là, et de voir ce que ça va donner dans l'action. Alors, on n'aura sans doute pas une réponse immédiate, mais c'est quand même une étape c'est quand même considéré comme une avancée. Et Poutine a été un petit peu... On est content en quelque sorte que Poutine vienne. C'est comme si, il s'est décidé à venir. Alors on va le recevoir et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est une stratégie de la part du président français, une volonté de, ou une vraie conviction qu'on peut dialoguer avec vous, Poutine?
On saura, comme vous dites, assez vite. Le rôle des États-Unis là-dedans, Alexandra Goujon, qui sont empâtrés dans une autre affaire ukrainienne, mais qui n'est pas du tout connexe, puisque ce qu'on demandait à Zelensky, c'était de l'enquête de Biden contre des fonds militaires, notamment sur ce front-là. Donc, où on en est du rôle des États-Unis là-dedans? Est-ce que, du point de vue ukrainien, il faut laisser de côté les vagues de cette histoire pour se concentrer sur l'argent que finalement apportent les Américains? Où est-ce qu'on en est?
Oui, alors, du côté américain, lorsque Trump, en quelque sorte, a fait comprendre qu'il n'avait pas du tout envie d'être impliqué dans cette histoire, Zelensky avait évoqué la possibilité de de faire venir les Américains à la table des négociations. Trump a dit non, mais débrouillez-vous avec Poutine, c'est votre histoire. Il aime bien les relations bilatérales, Trump, le multilatéralisme ne lui convient pas trop. Côté ukrainien, bien évidemment, cette histoire a profondément embarrassé, parce que les Ukrainiens, ce qu'ils veulent, c'est ne pas être impliqués dans la polarisation idéologique aux États-Unis. C'est-à-dire, républicains ou démocrates, on veut les Américains de notre côté. L'idée, c'est que ça fasse pas de vagues et bien évidemment de continuer à avoir le soutien des Américains, quel que soit le futur président élu.
Alexandra Goujon, un dernier mot. La Crimée, évidemment, on n'en parle pas, on n'en parle plus. C'est fini, ça a été abandonné, y compris par nous, les Européens. Désormais, c'est fini, la Crimée est aux Russes et fin de fermer le banc.
Non, la Crimée ne fait pas partie de ce sommet de Normandie. Ce sommet de Normandie concerne uniquement, j'allais dire maintenant, les accords de Minsk. Il y a aujourd'hui des sanctions par rapport à l'annexion de la Crimée, que ce soit de la part des États-Unis ou de la part de l'Union européenne, qui sont distinctes des sanctions à l'égard du conflit dans le Donbass. Donc on n'a pas oublié la Crimée, mais la Russie ne veut pas en parler.
Et la Russie, j'imagine, ne l'a pas oublié non plus. Ça ne peut pas servir de monnaie d'échange ni de marché, cette histoire de Crimée.
Non, les Russes sont complètement... pour eux, c'est, ils ont fait une telle propagande autour de la Crimée est à nous, en Russie, qu'il y a vraiment une totale impossibilité aujourd'hui d'évoquer la Crimée dans des négociations internationales. Par contre, les Ukrainiens continuent de parler de la Crimée. Zelensky, là, récemment, ne l'a pas évoqué, mais c'est régulièrement dans le discours politique de dire « un jour, nous récupérerons la Crimée ». Ça n'a pas été du tout oublié en Ukraine.
Voilà, bah écoutez, on verra en tout cas ce qui se passe dans ce format Normandie. En attendant, pour le Donbass, on sera fixé probablement, peut-être, dans quelques heures. Merci beaucoup, Alexandra Goujon, de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe dans l'Arctique avec des lapons, des rennes et Julie Pietri. Sous les radars, la suite, Estelle Schmitt, ce sont les chutes Victoria à sec.
Oui, historiquement bas, le niveau s'inquiétant parce qu'on sait que les chutes attirent des centaines de milliers de touristes et puis qu'elles permettent aussi au Zimbabwe et la Zambie de produire une bonne part de leur électricité.
Allez, à tout de suite. Pas de monde selon Trump ce soir et le monde à l'envers. C'est vous, Jean-Marc Four.
Bonsoir.
Et comment on nous regarde alors en ce moment dans le monde, Jean-Marc?
Miroir, mon beau miroir, bah oui. Suis-je la plus belle? Que nous dit la presse étrangère de notre système de retraite? Plutôt du bien, figurez-vous.
Allez, à tout de suite, allons faire un tour au Brésil avec Luca Santana, mon premier amour sur France Inter.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blá. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Foi, foi, foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi, foi, foi. Foi meu primeiro amor. Até hoje eu danço esse calor.
Nasci menino longe da cidade, no semiárido lá do sertão. Não tinha água, tão pouco comida, até que Lula veio e deu a mão. Um belo dia já conheci uma galeguinha linda.
Foi, foi, foi.
Foi meu primeiro amor.
Foi, foi, foi.
E até hoje eu danço esse calor.
Foi, foi, foi.
Foi meu primeiro amor.
Dans le bruit du monde, ce soir, écoutez, ce sont notamment des pieds qui marchent sur une glace menacée. C'est le début aujourd'hui de l'Arctic Week à Paris, une série de conférences en pleine COP25 où les scientifiques vont exposer leur travail sur le changement climatique dans le Grand Nord, où les peuples autochtones de Sibérie, du Groenland, d'Alaska, du Canada, du Nord de l'Europe vont témoigner aussi de leurs grandes difficultés face à la hausse des températures plus rapides qu'ailleurs dans cette région du monde. Un exemple parmi d'autres alors, et c'est ce que vous entendez, l'élevage de rennes, l'une des activités ancestrales en Laponie pour la viande, pour la fourrure, pour la peau, tout cela est aujourd'hui menacé. Et je vous invite à suivre Julie Pietri dans la région de Rovaniemi, c'est sur le cercle polaire.
Son père, son grand-père, son arrière-grand-père étaient déjà éleveurs de rennes. Les rudes hivers lapons, les forêts sombres et enneigées, Mia, 38 ans, d'origine sami, a grandi avec. Lui, c'est Harza. Il veut dire bonjour. On peut lui donner un peu de lichen. C'est comme du chocolat pour les rennes. Ce qu'elle est en train de faire, là, nourrir ses rennes, c'est du jamais vu dans sa famille.
Normalement, les hivers doivent être froids. En janvier, on peut avoir ici moins 30 ou moins 40 degrés. C'est normal et les animaux sont faits pour ça. Mais ces dernières années, nous avons eu de la chaleur au milieu de l'hiver. Des couches de neige ont fondu. Et l'eau a ensuite gelé pour créer des couches de glace. Les rennes ne peuvent pas gratter sous cette glace pour trouver leur nourriture. Depuis toujours, ce sont des animaux sauvages. Je suis la première génération dans cette zone qui est obligée de regrouper les rennes dans des enclos pour les nourrir. Et bien sûr, ça coûte beaucoup d'argent.
Sur un archipel norvégien, bien plus au nord, 200 bêtes ont été retrouvées mortes de faim cette année. Pourtant, certains éleveurs de Laponie restent sceptiques sur le réchauffement climatique. À la nuit tombée, une camionnette s'arrête sur un parking de Rovaniemi, la capitale de la Laponie. À bord, Harry, 33 ans, lui aussi éleveur, qui rentre d'une journée en forêt à la recherche de ses rennes.
Oui, j'y étais toute la journée, parce qu'hier, un chasseur du coin m'a appelé pour me dire qu'il avait vu un loup. Évidemment, on doit réagir tout de suite, parce que le loup, c'est une machine à tuer. Et j'ai encore 500 à 600 rennes dehors. On doit aller les surveiller. Mais on a déjà trouvé un mort, et ce loup a dû tuer bien plus.
Les prédateurs l'inquiètent plus que le dérèglement climatique.
On est sur le cercle arctique. On est en Laponie. Donc chaque hiver, les conditions climatiques peuvent beaucoup changer. Certaines années sont bonnes, d'autres très mauvaises.
Bruce Forbes, géographe, dirige le groupe d'études sur le changement climatique à l'université de Rovaniemi.
Vous parlez français ?
Bien sûr, nous avons eu des mauvais hivers avant. Mais maintenant, c'est une tendance. Et l'Arctique se réchauffe plus vite que le reste du monde. Donc on est déjà au-delà de l'accord de Paris et la tentative de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Dans le Grand Nord, nous sommes déjà à 2 degrés, même à 4 degrés par endroit. Donc ça arrive trop vite.
Ce jour-là, les peuples de l'Arctique organisaient leur sommet à Rovaniemi. Inuits, Aléout et Samis, donc, qui vivent en Laponie. Tous craignent pour l'avenir de leur mode de vie, l'élevage de rennes notamment, mais la pêche aussi. Eili Keskitalo est la présidente du Parlement Sami de Norvège. Elle répond en tenue traditionnelle, foulard à franges colorées, robe à volant et chaussures de cuir à pompons rouges et blancs.
J'aime qu'il fasse froid et sombre en hiver. J'aime l'air froid et gelé, et aussi l'odeur de l'hiver. Nous savons que les changements seront plus dramatiques ici. Ça affecte déjà nos modes de vie basés sur la nature. Bien sûr, si la végétation évolue, par exemple, nous aurons peut-être de nouvelles espèces, des animaux, des insectes, plus de biodiversité aussi. Mais quand le changement va si vite, nous n'avons pas le temps de nous adapter.
Elle espère que l'accord de Paris sur le climat de 2015 sera respecté, parce que si ce n'est pas le cas, dit-elle, nous, les peuples autochtones, serons les plus impactés et les plus démunis.
Julie Pietri, pour le reportage, vous avez de la chance. Il y a des vidéos sur franceinter.fr que je vous invite vraiment à aller consulter. Merci beaucoup. Le bruit du monde, quand il passe sous les radars, voici ce que ça donne. Voilà, et ce bruit impressionnant en soi, surtout quand on voit d'ailleurs ce qu'il y a derrière, c'est celui des chutes Victoria. Estelle Schmitt, donc on est à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, mais en ce moment, on n'entend rien, on n'entend pas ça. Parce que la cascade connaît une sécheresse sans précédent.
Oui, à peine un filet d'eau, les images là aussi sont impressionnantes. Les chutes Victoria où se jette le fleuve Zambèze dans un très profond canyon. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles font partie des plus grandes cascades au monde, avec évidemment celle du Niagara. Alors habituellement, le débit est si fort qu'on peut voir un gigantesque nuage d'eau. Rien de tout ça depuis des mois. C'est vrai, nous sommes dans la saison sèche. Alors il est logique, le niveau d'eau baisse. Mais pas à ce point, raconte David Samalambo, il est commerçant sur le site. La saison sèche, dit-il, est habituelle, mais cette année, elle a commencé en juin. Donc je dirais que c'est la plus grande sécheresse que nous ayons jamais eue ici, aux chutes Victoria. Un niveau d'eau est même historiquement bas. Le débit moyen le plus faible jamais enregistré était jusqu'ici de 390 mètres cubes par seconde. C'était en 1995. Il y a une semaine, le 2 décembre, il était de 227 mètres cubes par seconde. Depuis le début de l'année, le débit aurait diminué de moitié selon les autorités au Zimbabwe et en Zambie. Des autorités qui ont d'abord tenté de minimiser l'effet pour éviter. C'est vrai que les touristes ne viennent plus parce que les chutes attirent des centaines de milliers de personnes chaque année. Et puis elles apportent aussi à ces deux pays, Zimbabwe et Zambie, une part très importante de leur hydroélectricité, donc pas question de trop inquiéter la population. Alors allez-vous me dire pourquoi cette sécheresse ? Le président zambien lui affirme que ce serait une conséquence du réchauffement climatique et les scientifiques ne sont pas aussi catégoriques. Selon un hydrologue expert du fleuve Zambèze interrogé par l'agence Reuters, il faudrait que le phénomène se reproduise sur plusieurs décennies pour qu'on en soit vraiment archi sûr.
La Finlande aura demain la plus jeune première ministre du monde.
Oui, Sanna Marin, que vous entendez dans son discours d'hier soir, elle a 34 ans, choisie pour prendre la tête du gouvernement. Elle est plus jeune que la première ministre néo-zélandaise qui a 39 ans ou que le chef de l'exécutif ukrainien qui a 35 ans. Et après son investiture demain, elle sera la plus jeune dirigeante d'un gouvernement en exercice. Une femme en Finlande, c'est pas aussi exceptionnel que ça, il y en a eu trois. Les médias finlandais l'ont même pas commenté. D'ailleurs, aucun commentaire non plus sur le fait qu'elle a été élevée par un couple de lesbiennes en Finlande. Tout le monde s'en fiche. Non, c'est son âge qui a suscité le plus de réactions. Mais quand on lui en parle, Sanna Marin balaye le sujet. Et voici ce qu'elle en dit. « Je n'ai jamais pensé à mon âge ou à mon genre. Je pense aux raisons pour lesquelles je me suis engagée en politique. Et ces choses grâce auxquelles nous avons gagné la confiance de l'électorat. » Confiance, c'est vraiment le mot, parce que Sanna Marin a été investie de justesse hier par son parti social-démocrate, le SDP, après la démission du Premier ministre Rinne, qui avait perdu la confiance justement du centre, l'un des cinq partis de la coalition de centre-gauche au pouvoir. Démission aussi sur fond de gestion de la grève à la poste, dont l'État finlandais est actionnaire. Un projet de baisse de salaire de 700 employés. Mais celle qui a été ministre des Transports n'aurait pas radicalement changé la politique du gouvernement, même si elle est clairement un petit peu plus à gauche que son prédécesseur. Et ce, dans un climat social également très tendu qui ressemble un petit peu à celui qu'on vit en France en ce moment. Des appels à la grève dans plusieurs secteurs, la chimie, le bois ou encore le pétrole. Et la Finlande, dit-on, pourrait être paralysée à Noël.
Et puis, rien à voir, cette importante découverte archéologique en Angleterre. Voici un guerrier celte qui a plus de 2000 ans.
Oui, sur le site Poglington, c'est dans le Yorkshire, une récente découverte révélée par le quotidien The Independent. Des restes humains enterrés avec des armes, du classique, me direz-vous ? Eh bien non. Un professeur de l'université de Manchester a qualifié cette trouvaille des plus importantes pour un objet d'art celtique. Alors déjà, le bouclier, il permet aux scientifiques de mieux comprendre l'âge de fer, mais également les pratiques de l'époque, parce que juste ici, on pensait que ces boucliers n'étaient pas destinés à se battre, qu'ils étaient plutôt un marqueur social. Or, celui-ci a des signes de réparation, France et donc qu'il a servi et bien servi. Ce guerrier celte est également enterré avec un char, ce qui n'est pas très commun là non plus. Selon les archéologues, la famille du défunt croyait peut-être qu'il lui permettrait d'atteindre plus facilement l'au-delà, allez savoir. Et autre particularité, pas des moindres, la présence d'animaux aux côtés du guerrier, pas des chevaux mais des poneys. Et là, les scientifiques sèchent, ils n'ont à ce jour aucune explication, aucune hypothèse non plus sur le pourquoi des poneys. Alors si vous avez une idée, Fabienne.
Pour faire des tours de manège, voilà. Que je vous dise. Estelle Schmitt, merci beaucoup. À demain dans Un jour dans le monde, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voici Lou Reed's Walk on the Wild Side sur France Inter.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Thank you.
Cigarette After Sex dans Un jour dans le monde. Voici Jean-Marc Four.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, ce soir, on fait donc un petit pas de côté. Pour une fois, vous allez nous parler de nous, la France. Mais évidemment, en inversant le regard, en retournant le miroir, vous êtes allé regarder ce que la presse étrangère dit du conflit social en cours chez nous. Et ça dit pas mal de choses sur notre image, en fait, chez nos voisins.
Ça c'est d'abord, cartonne un peu, hein.
Eh ben oui, c'est d'abord celle d'un pays bloqué et c'est donc votre monde à l'envers.
Ni marche avant, ni marche arrière, à l'arrêt, même si les commentateurs varient selon l'orientation politique des journaux, évidemment. Il y a des constats récurrents un peu partout dans la presse étrangère. Et le premier, en effet, c'est que la France est difficile à réformer. On peut prendre le Washington Post américain ou bien le Gosk Nizhelny polonais. Tout le monde souligne la longue tradition de grève qui est la nôtre et la tendance systématique de la France à se cabrer dès qu'on lui parle de changement. Tout ça se double d'une inaptitude au compromis. Pour cette raison, je cite le journal économique allemand Handelsblatt, les négociations ne feront sans doute pas émerger de consensus. Pour le Britannique John Lichfield, qui a été pendant 20 ans correspondant à Paris, le compromis sera d'autant plus difficile à trouver que les syndicats sont peu représentatifs et trop nombreux, une douzaine allant, je cite, du trotskisme au catholicisme. Alors avec tout ça, on se dit que la presse étrangère aurait tout pour être blasée devant ce énième soubresaut d'une France turbulente. Eh bien, ce n'est pas le cas. Sans doute parce que nos confrères voient dans ce mouvement davantage qu'une grève, plutôt une version française de la crise de la démocratie représentative. Par exemple, le quotidien espagnol El País argumente « La colère est forte alors que le projet de réforme des retraites est vague ». Pourquoi ? Parce que c'est autre chose qui s'exprime, dit El País, une crainte plus profonde, la fin d'un modèle de société. Ou bien peut-être plus prosaïquement, ça c'est la formule du quotidien italien Corriere della Sera, un mouvement anti-Macron.
Alors justement, que disent nos confrères étrangers sur la situation du président français ?
Ça les intéresse au plus haut point, tout simplement parce que depuis le début, ce président jeune, disruptif, passionne la presse étrangère. D'abord, tous nos confrères estiment que c'est un moment clé de son mandat. Par exemple, la presse espagnole toujours voit dans la journée de demain un tournant, plus que de la journée de la semaine dernière. S'il y a toujours autant de monde dans les rues demain, voire davantage, Emmanuel Macron devra reculer. Son pari est même risqué, ajoute toujours John Litchfield, parce que tous les présidents français se sont cassés les dents sur la réforme des retraites. Alors bon, après vous vous en doutez, il y a les pros et les anti-Macron. Alors côté pour, le journal suisse Le Temps qualifie de juste le diagnostic du président sur la nécessité de transformer le pays. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung allemand dénonce les nombreux privilèges des régimes spéciaux de retraite en France. Et le russe Commerçant regarde Emmanuel Macron comme un homme qui applique son programme, au moins il fait ce qu'il dit. De l'autre côté, les critiques sont féroces. Là, ça tire à vue. L'éditorialiste britannique Piers Morgan, qui a la langue bien pendue, dénonce, je cite, « l'arrogance et la condescendance du président français ». Il y a de nombreux titres pour stigmatiser une forme de vision managériale des relations sociales. Par exemple, le New York Times américain dit ça en des termes assez polis. Il y voit une remise en cause du management vertical à la Macron du haut vers le bas. Et puis le site d'information tchèque CZ Info ajoute « les Français réalisent avoir voté pour un inconnu ».
Alors, mais sur le fond, Jean-Marc, c'est-à-dire sur la réforme des retraites, la presse étrangère, elle dit quoi ?
Ce qui frappe, c'est le nombre d'articles pour souligner la qualité du système de retraite français. Il y en a beaucoup pour dénoncer le dédale des régimes spéciaux, mais ils sont assez admiratifs sur notre organisation, sur ce filet de sécurité inconnu aux États-Unis, pour reprendre la formule du New York Times. L'espagnol El País insiste sur le fait que ce système permet aux retraités français d'avoir un niveau de vie très honorable. Seulement 3,4% de taux de pauvreté en France chez les retraités. C'est beaucoup mieux que chez nos voisins. C'est l'un des meilleurs systèmes au monde, ajoute le Guardian britannique. Les reporters étrangers racontent que les Français voient dans ce système de retraite un symbole de fierté nationale, un motif d'orgueil, une identité nationale française, c'est la formule d'El País en Espagne. Et reste évidemment la question que tout le monde se pose, comment on peut bien sortir de ce blocage ? Le journaliste britannique John Litchfield, à nouveau, je le répète parce qu'il connaît bien la France, il esquisse sa solution, éviter de passer en force, ne pas aller trop vite, laisser le temps au corps social français de faire sa conversion idéologique.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde.